Eh bien, bonjour à tous. Alors, quand j'ai rencontré Jean à Boulevard Saint-Michel il y a 2 mois de ça, je ne pensais pas me retrouver devant un tel auditoire et puis surtout avec une telle qualité de débat. Alors, j'admets que je suis un peu intimidé parce que la première chose que je lui ai dit, on ne se connaissait pas, j'ai dit « je suis un ours et tu vas me sortir de ma caverne ». Parce que, effectivement, j'habite le fin fond de la Drôme, où j'exerce mon métier d'audio-naturaliste, je vais vous en parler un petit peu, et où j'ai trouvé tout le bonheur que j'ai ressenti à la fin du film de M. Wenders hier soir, alors que la première partie m'a vraiment, ça a été très dur pour moi, parce que ça, je l'avais ressenti déjà il y a 40 ans, quand je me suis lancé dans les sons de la nature, parce que j'ai été me réfugier dans les sons de la nature pour éviter ça. Enfin, éviter ce qu'on a vu hier, qui est malheureusement une réalité très présente sur cette terre. Alors, pour commencer, je voudrais vous dire qu'on habite un bout de caillou qui s'appelle la Terre, et en fait, cette Terre a une particularité physique qui est que la vie existe dessus. Mais cette vie, en plus, elle a une autre particularité parce qu'elle chante. Donc on a une planète qui chante. Dans cet univers, si des petits hommes verts arrivaient, ils arriveraient sur notre planète, ils auraient une grande chance de tomber sur une forêt tropicale ou dans un parc ou des choses comme ça, et ils entendraient chanter la Terre, ils entendraient chanter les oiseaux, et ça c'est merveilleux. Sauf que maintenant, il y a un critère qui est apparu depuis 20-30 ans, ce que j'appelle moi le sonouillard, donc le brouillard sonore que l'on génère. Donc, nouveau mot qui apparaîtra peut-être un jour dans le dictionnaire, je ne sais pas, mais je le nomme comme ça parce que je n'ai pas trouvé d'autre nom. Et ce sonouillard est en train de couvrir notre belle planète et de nous fermer les oreilles sur le reste du monde, sur le sauvage. Je suis peut-être un peu confus, ça vient comme ça sort, et comme le naturaliste est aussi sur le terrain. Parce que je suis un homme de silence sur le terrain, et c'est ma passion et mon métier qui veut ça. Alors exposer cette passion est toujours un peu délicat. Je le fais beaucoup plus facilement face à une ou deux personnes, mais là, face à un grand auditoire comme ça, je me répète, je suis intimidé. Voilà. Ce bout de caillou là, sur lequel on vit, malheureusement on y est pour un bout de temps, nous représentons 6 milliards d'êtres humains, une espèce. Et nous partageons ce bout de caillou avec 2 à 10 millions d'autres espèces. Et malheureusement, ce que nous faisons actuellement, et on l'a vu hier encore, et enfin, on a l'espoir que ça s'améliore, c'est que dans notre façon de voir le monde, où on a tous envie de technologie, on a tous envie d'un iPhone, on a tous envie d'une voiture, et ça, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Eh bien, on fait disparaître d'autres espèces qui, elles, ne demandent rien, ne demandent qu'à coopérer entre elles. Et donc, ce que je souhaite, ce que j'espère de tous ces grands décideurs, de ces grandes réunions qui se font à travers la planète actuellement, c'est qu'enfin on trouve une solution. Et j'espère que l'intelligence de l'homme nous l'amènera à cette solution. Voilà. Alors, bon, moi, je serai toujours dans mes forêts, parce que elles sont tellement diverses et tellement belles que je ne peux plus les quitter. Et comme je dis toujours, on me pose la question de savoir mais comment on voit les oiseaux dans la forêt, comment on les identifie. Je dis comme ça, bon, c'est 80% à l'oreille. Et il faut savoir qu'un oiseau dans la forêt, c'est une feuille qui chante. Donc voilà, cherchez une feuille qui chante et vous verrez l'oiseau. Donc toute la difficulté qu'il y a à déterminer les oiseaux en forêt. Le son nature m'a fait vivre, grâce à l'édition de CD audio pendant 15 ans, ça marchait très bien, plus de 100 000 CD vendus par an, enfin bon bref, ça me permettait d'organiser mes voyages, d'organiser mes thématiques et d'aller à travers le monde collecter les sons que j'avais besoin pour mes éditions CD. Aujourd'hui, le CD s'est effondré, on n'en vend plus, bon, enfin bref. Et le cinéma a fait appel à moi, notamment pour la série La nature en France, donc, qui est passée sur Arte il y a 3 ans, il y avait 10 épisodes, où j'ai été le conseiller technique et scientifique de détermination des espèces d'oiseaux et des fonds sonores. Donc j'ai fourni aussi beaucoup de sons pour cette série. J'ai travaillé l'année dernière sur France 2 pour Le plus beau pays du monde, chez Boréal. Donc le tome 1 et le tome 2 qui est paru au mois d'avril. Ils étaient tout heureux d'avoir 7 millions de téléspectateurs pour ce film. Bon, bah, bref. Et ils m'ont dit après qu'ils pensent que le son y était pour quelque chose. Et alors, donc, je reviens sur cette partie cinéma parce que je me suis rendu compte que le son nature est la première couche de peinture. C'est-à-dire que tous les sons que j'ai fournis, on m'a envoyé les images. J'ai doublé tout au time code, j'ai fait au mieux. C'est-à-dire qu'à la limite, les images se suffisaient, les sons se suffisaient à eux-mêmes. C'est vraiment formidable. Et puis, très vite, je me suis aperçu qu'il y a eu la deuxième couche, qui est le bruiteur, qui est la surcouche. Alors là, le bruiteur, il vous fait des beaux galops, il vous fait des beaux frottements de pelage, il vous fait des grincements de dents, il vous fait des feuilles qui crépitent. Enfin, bon, ça met une bonne couche. Troisième couche, c'est la musique. Et selon l'auteur de la musique, qui veut mettre en valeur un peu plus sa musique, eh bien, le son nature redescend encore un peu. Et la quatrième couche, c'est le commentaire. Alors là, je ne vous en parle pas, parce que des fois, c'est difficile, surtout dans les films animaliers. Donc, cette expérience qui est assez nouvelle pour moi, puisque ça fait que 4-5 ans que je travaille pour le cinéma, m'a un peu déçu. Parce que moi, dans mon esprit, l'image et le son étaient deux amis intimes. Je les voyais comme ça, je les percevais comme ça, parce qu'en forêt, dans les landes, enfin dans la nature, eh bien, tout m'informe par le son, mais tout reste image. C'est les deux vont ensemble. Et le son a cette caractéristique que c'est notre seul sens du 360 degrés. Donc il nous avertit dans tous les sens, à tout moment, de l'état dans lequel est notre environnement. Donc moi, je pensais retrouver ça dans le film animalier. Et quand j'ai vu la place qui est faite au bruitage, qui est vraiment énorme, bon, voilà, j'étais un peu déçu. Je pensais qu'on... Mais bon, Perrin a bien compris. Je crois que les films de Perrin sont quand même avec l'équipe de Philippe Barbeau, là. A bien compris le sens du vrai son et du vrai doublage. Alors, pour information, enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans vos tournages, mais dans tous les tournages que j'ai faits, je n'étais jamais présent pendant les tournages images. La raison est simple, parce que les cadreurs, les caméramans font tellement de bruit que c'était impossible de faire quelque chose. Et donc, on m'a souvent envoyé, effectivement, comme vous le faites pour certains de vos ingé-sons, en situation pour récupérer les ambiances.
Oui. Oui, je comprends tout à fait votre souci pour les bruiteurs. C'est une maladie. Hein. C'est les bruiteurs qui viennent et qui font que chaque pas devient un tonnerre. Et ici, c'est encore pas si mal. Hein. Vous allez en Italie et vous n'allez rien entendre que les bruiteurs. Il n'y a plus rien que ça. Et aussi dans le cinéma espagnol et dans l'Amérique du Sud, on a complètement... éteint la première couche dont vous parlez, elle n'y est plus. Il n'y a que les bruiteurs et la musique et le commentaire. Ouais.
Voilà. Alors, j'apprécie beaucoup, effectivement, quand des images font la place aux ambiances et nous laissent à nouveau rêver avec nos oreilles aussi, avec nos yeux et nos oreilles. Alors, le métier d'audio-naturaliste, ce n'est pas simplement la collection de sons, comme on peut le penser. C'est avant tout un esprit. C'est-à-dire que vous avez deux formes de métiers qui sont liées à l'animal et au son. C'est la bioacoustique, qui est l'étude du comportement, donc l'étude scientifique du comportement par le son, et l'audio-naturalisme, qui est la version artistique du son de la nature. Ce que l'on va chercher, ce que je vais chercher quand j'emmène mes micros et mes oreilles, les deux à la fois, c'est la beauté de ce que je peux sortir d'un paysage, d'un animal ou d'une situation. Et ça, c'est tout nouveau. Je dirais que ça fait 10 ans qu'on voit apparaître une nouvelle école de jeunes. Il y a Boris Jolivet là, qui est présente, enfin, je crois qu'il n'est pas là, mais qui a un film demain matin. Marc Namblard qui a fait des séries sur les Brames du Cerf en Lorraine extraordinaires, d'une véracité et là sans bruitage, avec le cerf qui vous passe au-dessus de la tête, enfin, je ne comprends pas. Bon, on a des techniques, hein, c'est pas aussi. Bon. Et puis, donc voilà, il y a une école qui est en train de se former d'audio naturel. Je crois que Catherine aussi fait pas mal de choses. Catherine, elle est par là. Bon. Voilà. Et donc, c'est une école qui se sert vraiment de ses oreilles pour comprendre la nature, mais pas dans le sens scientifique qui est simplement de la communication. Et c'est bien dommage, parce que ce n'est pas que de la communication, c'est de la beauté. Et donc, cet aspect artistique est très, très important. Et j'espère, par mon approche, par mes réflexions, par des conférences, par des choses comme ça, pouvoir mettre en valeur ce nouvel art artistique, même si je ne suis pas l'artiste, la nature reste l'artiste. Et je voudrais dire, justement, par rapport à la nature, voilà, je vais devenir bavard maintenant. Oui. Oui, alors, voilà, j'entends beaucoup parler de nature. On nous envoie de la nature partout. Pour moi, la nature, c'est un bouquet de fleurs dans un pot de fleurs. C'est un radis qui sort du marché. C'est une étoile que je vois au loin. C'est l'eau qui coule. Tout est nature. Nous sommes nature. Enfin, voilà. Je dirais que c'est la grande matrice universelle. Mais là-dedans, il y a quelque chose qu'on oublie totalement, c'est le sauvage. C'est cette chose que l'homme, dont l'homme a peur. L'homme a peur du sauvage comme il a peur de la nuit, parce qu'il ne connaît pas, il a peur de l'autre, et l'autre, c'est ces 2 à 6 millions d'espèces animales ou végétales qui peuvent lui nuire, effectivement. Mais ça, c'est instinctif, c'est dans nos gènes, on est comme ça. Depuis la nuit des temps, on se réfugie parmi notre espèce à essayer de protéger notre espèce à tout prix. Et donc ce sauvage, il y a vraiment un mélange entre le terme de nature et puis le monde sauvage. Et ça, donc, comme je dis toujours, j'ai mes oreilles qui sont devenues un peu sauvages et instinctives. Je n'ai plus de montre, je n'ai plus besoin de me réveiller avec une montre. Je m'endors quand j'ai décidé. Je ne vais pas faire la démo là, mais je peux vous l'assurer. Voilà, j'ai retrouvé des instincts que l'animal, que la forêt, enfin, que le paysage ont encore en eux et que nous avons en nous. Mais ça, c'est 30 ans de terrain, c'est 30 ans de baroudage et d'observation et de plaisir d'observation de l'animal et du monde sauvage. J'ai dit sous forme de CD, ce sont des ambiances totales, pas de commentaires, pas de présence humaine, pas d'avion, pas de voiture. J'essaye de bannir. J'ai de temps en temps quand même laissé un petit clocher, une fontaine, enfin des choses comme ça qui mettent une. Mais on me dit comme ça, mais ça n'existe plus, ces sons-là, ça n'existe plus. La radio va trop vite, il faut parler tout le temps. 30 secondes de son nature, c'est énorme à la radio, c'est trop long. Donc son nature ne passe très 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 mal à la radio. Ou alors il faut que ce soit spectaculaire, que ce soit un cri, bref, soudain, que ce soit un comportement justement qui fait réagir. Mais il faut tout de suite que le reporter reprenne la main et il faut que ça aille vite. On a perdu le temps de l'écoute pour l'écoute. Donc c'est un peu la problématique. Et je me rends compte, ayant créé l'un des premiers sites de téléchargement de son nature en ligne d'Europe, ça s'appelle Naturophonia, vous le retrouverez si vous venez à l'exposition, je pensais que mettant des sons un petit peu payants, enfin pas trop chers, en ligne, ça allait intéresser beaucoup de nos concitoyens, parce que devant la vente des CD qui avait été faite, je pensais que ça allait continuer. Et en fait, de plus en plus, je me suis aperçu, donc les gens se dirigent vers le gratuit, ça, c'est sûr, mais mes ambiances sont trop longues. Généralement, je mets 15-20 minutes pour prendre le temps de l'écoute, parce que le son, c'est du temps, enfin la nature, c'est du temps, le sauvage, c'est du temps, tout est du temps. Et c'est trop long, nos concitoyens ne peuvent plus écouter 20 minutes, c'est pas, c'est plus dans les normes. 2-3 minutes, ça va. Mais non, mais 20 minutes d'un ruisseau qui coule avec deux piafs qui passent dans les 20 minutes, c'est un exercice, je peux vous assurer. Donc, voilà. Et comme expérience, j'avais acheté l'un des premiers CD sur les sons de la nature en 83, qui provenait du Japon. Il y avait une belle cascade, ça s'appelle Waterfall. Enfin, c'était vraiment magnifique sur la jaquette. Je me suis dit, waouh, son nature, ça va être superbe. Je vais m'emplir les oreilles de ça. Il y a 30 ans de ça. Donc, j'écoute ce CD. Au bout de 5 minutes, je dis, bon, c'est un peu bizarre, c'est encore le bruit. 10 minutes, un quart d'heure. Ah, tiens, il y a un oiseau qui est passé. Ah, là, il y a quelque chose qui s'est passé. 20 minutes, 30 minutes. Et puis jusqu'au bout, comme ça, quoi. Je l'ai rangé tout de suite, j'ai dit, bon, bah ça, moi, je peux pas écouter ça. Il y a 4-5 ans de ça, j'ai retrouvé, lors de mon déménagement, ce CD. Je l'ai réécouté. Mais j'ai pris un plaisir incommensurable. C'était fabuleux, fabuleux. J'avais mûri, mon oreille avait mûri avec mon expérience de terrain, avait enfin compris le temps, la durée du temps dans la nature, et non pas le temps qu'on veut lui imposer. Et donc ce CD est maintenant l'un de mes préférés. Donc voilà, comme quoi, il faut. Et je pense que l'écoute de la forêt, c'est un peu ça aussi. Si on l'écoute au fil des saisons, je crois qu'on peut rentrer aussi dans autre chose, dans une autre dimension, et comprendre que la forêt, c'est pas qu'une. J'en parlais avec vous hier, une exploitation. C'est pas qu'une exploitation, c'est un partage. Et ce n'est pas qu'un partage entre nous, les hommes, c'est un partage avec les autres animaux, enfin les autres êtres qui sont sur ce bout de caillou, et on n'en a qu'un. Pour le moment, le plus loin, maintenant, on vient d'en découvrir un, 17 millions d'années-lumière, je crois. Bon, ce n'est pas pour demain, je crois qu'on ira voir là-bas. Et peut-être, si tu as une question, ou sinon, je voulais conclure sur une réflexion. Je me dis comme ça, bon, ça va peut-être faire bondir. Le meilleur pour l'humanité serait qu'il aille conquérir Mars, qu'il aille foutre son bazar là-haut et qu'il nous mette la planète en réserve. La planète est en réserve. Voilà. Chaque espèce animale a son propre langage, donc bien moins évolué que le nôtre, quoique, des fois, on ne sait pas. Mais tout ça rassemblé fait le grand concert universel, fait cette grande ambiance. Et quand on parle de hasard dans la nature, il n'y en a pas tant que ça, du hasard. Il n'y en a pas tant que ça parce que le sauvage, je ne parlerai pas de la nature, mais le sauvage fait que chaque espèce doit être au top de sa condition pour la reproduction, qui est l'essentiel pour continuer l'espèce, enfin faire évoluer. Et en fait, quand on écoute, je prendrai encore le cas de la forêt, une forêt, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi c'est beau ? Nous qui sommes espèces complètement indépendantes de ce concert, qui n'avons rien à faire là-dedans, pourquoi à nos oreilles c'est quand même beau ? Pourquoi c'est musical ? Pourquoi on ressent des choses en étant devant ce panorama sonore ? Voilà, ça, je suis dans cette phase-là actuellement. Donc. Je n'ai plus d'odorat. Et en fait, j'ai développé... je n'ai plus d'odorat depuis... un accident d'école où j'étais un peu bagarreur et je me suis pris un bon pain dans la tête et j'ai le nez cassé, et bref, enfin, tout un tas de choses qui ont fait que j'ai perdu une partie de mon odorat et j'ai développé mon ouïe. C'est probable et ça, j'en suis persuadé. Oui. L'ouïe a vraiment pris la part de l'odorat. Les beaux sons, les belles ambiances sont très rares dans la nature. C'est très, très, très rare. Il faut être là au bon moment. C'est un calendrier annuel qui défile sans arrêt, qui va très vite et qui ne vous attend pas. C'est-à-dire quand les grenouilles rousses commencent à chanter au mois de mars, elles vous donnent 10 jours, enfin 10 soirées, donc avec la météo qui est liée et tout ça, pour pouvoir les enregistrer, pour être là au bon moment. Vous loupez ces 10 jours, vous attendez un an. Et pour tout, c'est pareil. Les gommes-mouches, quand ils arrivent, ils vont chanter 15 jours. Si vous voulez enregistrer un beau gommes-mouche, vous avez ces 15 jours-là. Donc il faut avoir une connaissance de terrain. C'est ce que je dis pour beaucoup d'ingénieurs de son. La technique ne suffit pas. Ce n'est pas pour faire de l'audio naturaliste, et non pas audio naturiste, hein, on me l'a souvent dit. Donc, audio naturaliste. Oui. Donc audio naturaliste, il faut être avant tout homme de terrain ou femme de terrain. Avoir la connaissance, le sens de la nature et du sauvage, et ensuite utiliser les technologies. Voilà. La grande différence qu'il y a avec beaucoup d'autres soundtrackers, chasseurs de sons, bioacousticiens, enfin on les appelait comme ça auparavant, c'est que beaucoup étaient musiciens. Beaucoup pratiquaient la musique ou un instrument, et donc avaient une relation au son déjà très très définie. Je ne suis pas du tout musicien. Je n'ai jamais fait de musique. Par contre, quand j'entends une mauvaise musique, ça me choque tout de suite. Quand j'entends quelque chose, ça, voilà. Et donc, j'ai une autre relation peut-être que la relation d'un musicien, parce que j'ai peut-être une autre oreille, celle d'un pur naturaliste, en fait, amoureux de ces 2 à 8 millions d'espèces. Donc, c'est peut-être la différence actuellement qu'il y a par rapport à tous ces écrits. Schaeffer, je crois qu'il était musicien aussi. Enfin, Bernard Faure, actuellement, là, qui compose beaucoup, est un musicien avant tout. Je vois beaucoup qui essayent d'utiliser les sons de la nature. Et ça, j'aurais pu aussi en parler. Pour moi, le son de la nature est une musique, mais est une autre musique. C'est-à-dire qu'on a en parallèle une musique humaine développée sur 24 à 40 000 années. Je crois que le premier instrument, c'est une petite flûte qui a 24 000 ans, qui a été trouvée dans une grotte. Et à côté de ça, on a une évolution de 500 millions d'années du modèle biologique, de la faune biologique, d'évolution dans les sons et dans la composante du paysage sonore. Donc on a deux modèles très, très, très différents. Et j'ai fait des essais de mix musique et son nature, j'ai très vite arrêté. Très très vite arrêté parce que ce n'est pas fait pour la même utilisation, ce n'est pas fait pour la même chose. La musique est faite pour le plaisir de l'homme, pour son bien-être, pour le partage avec les musiciens, avec les compositeurs. Le son nature est fait pour tout le reste. Donc mêler les deux, c'est difficile. Toutes les expériences qui existent me semblent pour le moment, il y a un ou deux cas en Australie où vraiment l'auteur avait atteint des summums. Une histoire de castagnette avec les coca-bourras, c'est un gros martin pêcheur qui claque du bec. Et il y avait une similitude avec les castagnettes et il a su jouer avec ça. Et j'ai trouvé ça assez formidable. Mais dans tous les autres cas, j'ai un peu l'impression que c'est de la musique au kilomètre qu'on nous balance. Voilà, je suis peut-être un peu dur envers les électroacousticiens, tout ça, enfin, toute la musique électronique qui se met en place. Mais actuellement, le grand mouvement de la musique électronique. Mais je suis sûr que cette musique électronique trouvera dans les sons de la nature, dans les sons du sauvage, beaucoup de matière. Et ça, ça me fait plaisir.
Merci infiniment pour votre retour à la civilisation parfaitement réussie. Thank you.